Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un Duo Rôliste. Je suis Robin Valor et aujourd'hui, je vous présente un épisode spécial, le résumé de notre saison 2 où nous avons joué à Donjons & Dragons 5e édition et qui s'intitule Lucius, les 3 actes, acte 1. Alors, vous me direz, pourquoi ce résumé? Parce que nous interrompons temporairement notre saison des Encagés, qui reviendra bientôt, je vous rassure, pour une mini-saison de Donjons & Dragons qui est la suite directe de la saison 2. Comme nous avons diffusé la saison originale en 2021, mon comparse Elric Melny et moi-même nous sommes dit qu'un résumé serait une bonne idée pour vous rafraîchir la mémoire ou pour vous faire découvrir cette saison si vous avez pris notre podcast en route. À noter que cette saison se passe dans un monde que nous avons créé nous-mêmes. Donc vous entendrez plein de noms qui risquent de ne pas vous être familiers. Ne vous inquiétez pas, cela ne nuira pas du tout à la compréhension de l'histoire. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur ce monde, allez voir la page de la saison 2 sur notre site web qui donne tout plein de détails. Le lien est dans la description de cet épisode. Sans plus attendre, découvrons le protagoniste principal de cette histoire, Lucius Flavius, assassin de profession, joué par Elric Melny.
Dans ce cas-là, Lucius, la première chose qui frappe quelqu'un qui va le regarder, effectivement, c'est qu'on voit un jeune homme assez svelte, avec un visage du secteur, normalement, donc avec une peau qui devrait être claire. Et là, on voit qu'il a une peau plutôt burinée. Étonnamment, il a des cheveux blancs-gris. Il n'est pas albinos. Et il est clairement habillé avec une tenue du chaman, donc ses tenues plutôt chamarrées, colorées, donc de voyage... aventurier entre guillemets, donc fait pour le voyage quoi, avec quand même un peu d'épaisseur ou autre, mais c'est quand même très coloré, très exubérant par rapport au secteur habituel. Donc c'est typiquement l'ambiance, on va dire, des images des contes des mille et une nuits.
Lucius est convoqué d'urgence par son ami Quintus Aquilus dans les bureaux de la CISCUP, la société d'importation qui sert de couverture aux activités moins légales de notre protagoniste.
À peine Lucius rentre dans le bureau, il trouve en fait assis sur une chaise assez opulente Quintus Aquilus, donc ton patron, mais aussi ton ami. Et alors que tu arrives, il relève la tête et te fait un large sourire. Il fait « Ah Lucius, merci de venir aussi rapidement. Assieds-toi mon ami et sers-toi un verre de vin. »
Mon ami, ça fait plaisir de te retrouver. Et bien sûr, je vais prendre ce verre de vin. Mais tu m'as fait demander bien rapidement, alors comme tu le sais, le voyage était bien long et je suis très très curieux de ce qui peut être si urgent, mais soit.
Lucius, tu repars tout de suite. J'ai une excellente nouvelle. Lucius, as-tu déjà entendu parler de Tiberius, Opsius et Sicius ? Quintus, souriant un petit peu en devinant qu'en fait tu sais pas qui c'est, style « Oh la honte !» Il rajoute...
De toute façon, je joue pas à le tromper ou pas, c'est clair, je fais... Mais bien sûr que non. Et qui est-il?
Tiberius et Sicius est une personne importante dans la comté, en fait. On dit même qu'il est à 3 ou 4 échelons du comte lui-même. C'est une figure politique d'une des villes du Nord. Et ce personnage-là nous a confié du travail, mais un travail très spécial. Et tu vois qu'il tape de sa main sur cette espèce de chose qui est couverte par un drapé, qui dit... Lucius, j'ai une mission très importante pour toi. On nous a demandé d'apporter une lettre au comte de Dinam lui-même. Tu te rends compte?
Ah, un message directement pour le comte. Oui, certes.
Oui.
Plus que valorisant comme mission.
Oui. Et comme toute mission valorisante, il y a quand même des contraintes. Il faut absolument...
Des risques.
Oh oui, risques. Mais non, je crains rien avec toi. Et je te fais confiance. Mais il faut absolument que la lettre... soit remise au comte dans 2 mois. Et donc tu vois qu'il dévoile, il lève le drapé de l'objet qu'il y a sur son bureau, et en fait tu te rends compte que cet objet, c'est une sorte de caisse de métal qui doit faire à peu près 50 cm d'arête, Et c'est un objet que tu n'as vu qu'une seule fois auparavant. Et tu sais que Quintus l'appelle le bunk. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le moyen de transport le plus sécurisé que la 6QP offre à ses clients de luxe. Pourquoi c'est le moyen de transport le plus sécurisé ? C'est très facile. Déjà, la qualité du métal est exceptionnelle, qui le rend naturellement dur. Mais en plus, ce modèle-là, ce qu'on appelle le bunk, a 6 runes. 6 runes de l'art qui sont gravées dessus. Tu as déjà étudié d'ailleurs la seule fois où tu as été exposé, où tu as dû transporter un bunk pour un de tes clients. Tu as travaillé avec Lily pour identifier quelles étaient ces 6 runes qui étaient apposées sur le bunk. Et en fait, Lily t'a appris qu'il y avait une rune de durabilité et une rune de résistance, ce qui rend en fait cette caisse métallique aussi difficile à percer qu'une porte d'airain qui protégerait un coffre en fait. Donc c'est extrêmement difficile à ouvrir. En plus de ça, il y a 2 runes explosives. Si quelqu'un essaye de l'ouvrir sans utiliser la bonne façon, ça crée une explosion tout autour de la boîte et potentiellement tuer la personne qui essaye de le faire. Et ensuite, il y a 2 autres runes qui sont plus utilitaires pour le porteur, pour s'assurer que toi, tu ne perdrais pas le bunk. La première, c'est la rune de localisation, ce qui veut dire que tu connais un mot de passe de l'art, qui en fait, quand tu le dis, tu peux connaître la direction du bunk pendant 24 heures, et ça marche 2 fois. Et la dernière rune, c'est la rune la plus puissante, et tu vois qu'en fait, elle est à moitié gravée en ce moment sur le bunk. C'est la rune de rappel. Quand on finalise la rune de rappel avec le sang du porteur, donc là, en l'occurrence, tu sais très bien que ce sera ton sang à toi, Lucius, tu auras la possibilité, une fois, de rappeler cette caisse à toi, si elle est à moins d'un kilomètre, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle apparaîtra instantanément dans tes bras. Et donc, Quintus dit, il faut vraiment que tu partes tout de suite. Ton escorte t'attend déjà à la sortie de la ville, donc tu as un peu moins d'une petite heure pour aller te préparer pour ton départ. Il faut absolument que tu sois dans 2 mois. Et si tu n'arrives pas à délivrer le colis dans ce temps imparti, nous perdrons tout l'argent.
Chargé d'une nouvelle mission, Lucius récupère Lily et tous deux sortent de la ville pour retrouver leur escorte, les Thermopsidés. Des mercenaires à la réputation de fiabilité et d'efficacité. Après des échanges professionnels, ils se mettent en route. Ainsi démarre leur périple qui les mènera de la ville de Brandiran à celle de Dinam, 2 mois de voyage à l'allure rapide pour pouvoir arriver dans le délai imparti. La tension dans le groupe est palpable. Lucius et Lily se sentent très isolés, car les Thermopsidés restent principalement entre eux. Lucius a du mal à briser la glace, mais lors d'une soirée autour du feu, il tisse des liens d'amitié timides avec un des mercenaires, le jeune Thomas. Mais le voyage n'est pas sans événements. Tout d'abord, la compagnie rencontre une congrégation de moines itinérants, étranges et excentriques, qui prient et dansent au milieu de la route. Ils causent bien un embouteillage, qui dure plusieurs heures, mais finalement s'écartent du chemin et la circulation reprend. Ce n'est qu'un contretemps mineur. Le trajet continue sans encombre, jusqu'au moment où la compagnie surprend un voleur la nuit, qui tente de leur dérober le bunk.
Donc tu es dans la nuit entre le 4e et 5e jour du 3e cycle. Et tu vas me faire un test de perception. Et je vais te dire ce qui se passe.
Tintintin. Ouh, bien, attends. 16, perception, 16, 20, ça fait.
20, oula, tu te réveilles en sursaut, mais complètement alerte, par un bruit immense. En fait, tu te réveilles par un bruit d'explosion.
Ah mince.
Immense.
Il fallait pas besoin de faire 20 pour se réveiller alors.
Où c'est que tu gardes le bunk ?
Ah ben là, quand on n'est pas sur le cheval et que je suis pas sur le cheval, il est avec moi dans le sac à côté de moi, donc je dors dessus à côté. Je lui ai mis un autre truc pour faire un peu d'épaisseur et de moelle, mais il est
avec toi.
Il est jamais seul. Ouais. Donc si c'est lui qui est explosé, je suis à côté.
Ah ben donc tu vas me faire un save dextérité avec des avantages alors.
6 plus 7, 13.
Ah bah tu vas prendre demi-dégâts alors.
Bah oui, ça commence.
En fait, ton sixième sens t'a alerté juste avant la détonation, mais d'un réflexe en fait faramineux, tu as réussi à te rouler sur le côté et à, par exemple, t'as attrapé ton sac en même temps que t'as roulé et en fait tu t'es protégé ton sac et tu n'as essuyé qu'une partie de l'explosion qui va faire des dégâts, bien évidemment.
Forcément. Qui va détruire, abîmer des choses. Ça va mettre de mauvaise humeur, ça.
9 points de dégâts d'explosion. En fait, le bunk explose, littéralement. Et là, tout le monde se réveille. Et donc, qu'est-ce que tu fais?
Ben là, d'instinct, c'est qu'est-ce qui a pu essayer d'ouvrir le bunk et donc qui aurait déclenché la garde, quoi.
Alors, tu n'as pas besoin de faire de test de perception pour trouver un corps calciné, littéralement calciné, quelqu'un qui était probablement la personne qui probablement a déclenché la rune. Un enfant, à ton avis. Quelqu'un de vraiment pas très grand qui devait faire...
Ça peut être un régal.
80 cm et 1 mètre. Plus petit qu'un régal. Et là, tout d'un coup, tu sais, une fois que l'adrénaline redescend un tout petit peu, tu te rends compte de cette odeur de charnier qui, ouais. En fait, te saisit à la gorge et c'est vraiment pas agréable. Et tu vois que tous les autres sont un peu figés par la situation jusqu'au moment où tu vois Mescrian qui se lève tout d'un coup et qui se dirige dans un endroit. Et là, tous les thermopsydés le suivent. Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde si Lily n'a rien et je regarde où est-ce, vers où il va si je vois quelque chose.
Tu vas me faire un test de perception.
Ouf, c'est bon. 19, j'ai combien?
Donc c'est bon, ça suffit.
Ok.
Et tu vois qu'en fait, Mescrian a posé un genou au sol et tu vois qu'il y a un autre corps au sol. Et c'est à ce moment-là que tu réalises avec horreur que ce soir-là, c'était le tour de garde de Thomas. Et très rapidement, tu imagines qu'en fait...
Il s'est fait tuer.
Thomas n'est plus là.
La mort de Thomas a jeté un froid dans la troupe. Les thermopsydés se replient encore plus sur eux-mêmes et le moral est vraiment au plus bas. La situation devient un peu plus oppressante lorsqu'un après-midi, la compagnie est survolée plusieurs fois par une immense créature volante qui finalement atterrit à côté d'eux.
Ce qui se passe, c'est que la créature atterrit à peu près une vingtaine de mètres de vous. Vous êtes repoussé par le souffle tellement que la force de ses ailes est impressionnante. Et effectivement, tu reconnais cet aspect peau écailleuse. Ces écailles sont d'une couleur rougeâtre, tu sais, orangée rougeâtre. Et tu vois en fait quatre pattes avec des espèces d'immenses griffes et une gueule avec des yeux reptiliens et des espèces de crocs immenses.
C'est parfait ça.
La créature d'horreur par extension, quoi.
Et le cavalier qui est sur
Mais
ce
elle
sur
est harnachée. Et donc en fait, d'accord. Alors que la créature se pose de manière quand même relativement gracilement, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, si c'est pas un beau...
Ouais.
C'est au contraire, ça a l'air souple. L'homme qui en descend en est quand même vraiment imposant. Il doit faire... il n'est pas très grand. Il doit faire 1m60, 1m65, donc vraiment pas un truc. Par contre, en fait, il est extrêmement large, hyper musculeux, en fait, partiellement torse nu. La seule chose qui lui couvre le torse, c'est des espèces de pièces de métal et de cuir qui lui forment une sorte d'armure. Il a des bottes solides avec un pantalon court qui lui arrive jusqu'au genou. Clairement, il est armé, mais en fait, il n'a aucune arme dégainée. Mais tu vois qu'à son côté, il a une sorte d'épée. Mais ce qui est le plus impressionnant, en fait, il porte un masque métallique, mais d'un métal brillant, un peu comme si c'était un masque d'argent. Et le masque reflète la lumière du soleil. Il démonte de sa monture de manière très, très leste et de manière non belliqueuse. Il vous fait un salut et s'approche de vous. Hola, voyageur! Est-ce que vous auriez un peu d'eau? Ou une gourde, en fait?
J'ai ma gourde qui a survécu, je la prends et... Whoop!
Tu la balances?
Oui, en direction pour lui donner, quoi. Mais en faisant pas de façon méprisante, quoi. Si, voilà. Mais en gros, viens pas trop près non plus, quoi.
Ok, bah, tu balances la gourde? Il fait... Non, mais je veux dire, pour que je la garde, hein?
Cadeau.
Ah, ok. Ah, oh, sympa. Et donc, tu vois qu'il boit. Il boit. Okay.
Ça vous fait du bien, ça va? L'air était pas trop sec là-haut?
Non, ça va. Ça va. Mais, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous paye?
Non. Non, entre voyageurs, il faut bien s'entraider de temps en temps.
Ok, Ok.
Vous allez vers. Vous allez où? Vous allez vers où?
Tu vois qu'il s'approche là. Si tu lui parles, il s'approche de vous, quoi.
Oui, ouais, là c'est bon, ouais.
Est-ce que vos amis vont continuer à me pointer avec leurs armes ou.
Je pense, oui.
Ah ben, sympa l'accueil.
On s'est déjà fait attaquer il y a pas longtemps, donc c'est pour ça. Et on a perdu nos amis.
J'en suis désolé. Vous êtes fait attaquer? Par qui?
Vous cherchez quelqu'un?
Oui.
Ah.
En fait, je cherche un groupe qui est censé être sur la Via Traversa, j'arrive pas à les trouver.
D'accord, et vous cherchez pourquoi?
de leur mettre un message.
Mais comment vous savez le reconnaître, ce groupe, alors?
J'ai une description. Un homme et quatre femmes, à cheval, qui se dirigent dans cette direction, donc ils te montrent la direction de Dinam.
Ok, bah, on les a pas croisés.
Mais, ok, bon, ben, si vous voulez pas que je m'approche, bonne journée, alors, hein. Vous êtes sûr? Je crois que je vais avoir un petit truc à becter. Vous voulez pas un petit truc à bouffer?
Non, je vous remercie. Et si nous les croisons, vous voulez qu'on donne un message à ces personnes-là? Peut-être vous retrouvez quelque part, vous allez au relais.
Non, je vais arriver à les trouver à un moment ou à un autre. Hein. De là-haut, on voit pas mal quand même. Hein. Il remet le masque, il se bat. Ah, tu vois qu'il se retourne?
Non, mais...
Vous êtes sûr, hein? Ok, bonne journée. Ah, attendez, vous voyez ce que je vais faire? Je vais laisser la bouffe, là, par terre. Au pire, ça nourrira les écureuils, mais sinon, si vous êtes intéressé, servez-vous. C'est le moindre des choses, quand même donner la gourde, quoi. Et puis, tu vois qu'il remonte. Effectivement, il a l'air de poser quelque chose par terre. Et puis, tu vois, tout d'un coup, le Koranig commence à battre des ailes. Ouh, c'est à nouveau l'espèce de grosse souffle qui vous recule. Et puis, ben, il s'envole.
Ok.
Et il repart.
Cette rencontre avec le cavalier ailé habillé en tenue traditionnelle de gladiateur a laissé Lucius bien perplexe. Mais ce n'est pas le temps de se poser des questions. Chaque minute qui passe les éloigne de leur but. La troupe reprend alors la route, mais n'est pas au bout de ses surprises. Quelques jours plus tard, ils découvrent non loin du chemin principal un charnier, celui d'une troupe portant l'étendard d'une guilde appelée les Courriers du Sud. Le spectacle est ragoûtant et crée un énorme sentiment de malaise et même un peu de peur au sein de la compagnie. Mais finalement, au bout d'un mois acharné de voyage, Lucius et sa troupe arrivent à leur première étape, une auberge à la frontière du comté de Brandiran et de celui de Dinam, appelée le dernier rempart avant la civilisation. Enfin, pour la première fois en plusieurs semaines, ils vont pouvoir avoir un toit sur la tête, dormir dans un lit douillet et manger autre chose que des rations de voyage. Afin de cacher son identité et de profiter d'une réduction sur les chevaux de rechange, Lucius se fait passer pour un employé des Courriers du Sud grâce à un parchemin trouvé dans le charnier plus tôt. Le soir tombe et Lucius et Lily profitent d'un repas copieux et délicieux dans la salle principale de l'auberge qui est bondée de gens, de musique et de rires. Quand Lucius est intercepté par 5 individus mystérieux.
Tu vois qu'il y a un groupe de personnes qui s'approchent ostensiblement de ta table. Ils se cachent vraiment pas, au contraire, ils se faufilent à travers les tables. Pardon, laissez-nous, s'il vous plaît. La personne qui dirige ce groupe a l'air d'être la personne la plus imposante, donc celle qui, en fait, se fraye le chemin parmi la foule. Et tu vois que c'est un corot aussi. Un corot dont les écailles ont la couleur bronze, une couleur bronze. Et tu vois qu'il y a un groupe donc, de 5 personnes qui s'approchent de vous, et puis à un moment, donc ils ont des chopes dans la main.
Qui s'approchent de moi, je suis tout seul.
Qui s'approchent de toi tout seul à ta table. On peut s'asseoir avec vous ?
Allez-y, la table est disponible, passez une très bonne soirée.
Ah mais attendez, on vous a amené une chope. Tu vois que le coron, en fait, pose une deuxième chope sur la table, et donc là, ils s'assoient tous autour de toi, d'une manière pas du tout agressive. Et donc, tu peux détailler ces 5 personnes qui sont autour de toi. Donc, effectivement, donc le corot, dans les écailles de couleur bronze, donc avec la lumière du feu et les lumières de torches, ça donne une espèce de couleur dorée qui est quand même assez impressionnant. Vraiment très large. Vraiment très large. Impressionnamment large.
Mmh.
Juste derrière, il y a un homme avec un style un peu particulier, habillé relativement sombre et la mèche de cheveux qui cache la moitié du visage. À la très manga quand même, qui est assis à côté. Tu vois une scène qui t'habille avec une robe bleue, une robe bleue de voyage, très pratique, mais quand même qui est relativement de bonne qualité. Tu vois une Camille en l'occurrence, et qui arbore en fait sur son... Elle a une sorte de pendentif autour du cou, et elle arbore en fait le symbole de Candrin. Et à la fin, un peu qui traîne derrière, tu vois un pyrite. Alors une pyrite en l'occurrence. Tout ce qui est de plus classique, avec des braies courtes et un beau t-shirt rouge. Tu sais, rouge bien pétant, en fait. Et donc, voilà, ces 5 personnes-là, donc s'assoient à ta table. Et donc, tu vois que le corot tient une chope qui te tend et dit « On aimerait un peu vous parler quand même. Hein. »
Puisque vous êtes si accueillant et si charmant, bien sûr, avec grand plaisir. Par contre, je vais pas rester, je suis un peu fatigué, j'aimerais me reposer et on pourra continuer largement la discussion de demain. Donc, je veux bien rester un petit peu avec vous. Vous êtes si sympathique, j'ai un beau sourire et on continuera demain si vous le souhaitez.
Tu vois que là, c'est l'homme qui répond. Non, demain, on sera déjà parti. On nous a dit que vous étiez les courriers du Sud, c'est ça?
Tout à fait.
Sir Lucius, j'ai entendu parler.
Ah, vous avez entendu parler, très bien.
Tu vois que la pyrite sourit quand tu réponds comme ça. Elle sourit pas, elle fait un petit sourire en coin, d'un air un peu complice. Et donc l'homme qui semble pas du tout avoir saisi le trait de sarcasme, dit... bon, bah écoute-moi, mon gars. On veut pas de problème. On sait qu'il y a une course, on sait qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, mais on est venu en toute bonne foi pour faire une sorte de pacte de non-agression. Si tu penses que toi et ton groupe, vous n'allez pas la jouer réglo, autant qu'on règle ça tout de suite, et puis t'inquiète pas, vous allez tous vous retrouver à l'hosto. Par contre, si t'es malin, ça va bien se passer, on joue fair play, et puis que le meilleur gagne, ok? Et là, tu vois que les cinq personnes donc, te regardent pour voir comment tu vas réagir.
Juste avant de répondre, donc je prends, tu sais, voilà, comme là, quoi, le temps de répondre de Lucius, je fais un beau sourire. Vous avez raison de parler d'être fair play et je le note tout à fait. Hein. Vous êtes combien? 5? Je suis tout seul. Oui, je sens que c'est tout à fait une discussion à propos et égalitaire. C'est très intéressant. Chacun fait son métier. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, comme j'ai vu qu'elle avait le symbole de Candrin, la fille à côté, la Camille. J'essaie de jouer sur ça en rappelant une citation de Candrin tout en disant que de toute façon, quand on est tous guidés par la lumière et protégés par Candrin, on doit tous se sentir en sécurité de bien faire son travail en étant respectueux de tout le monde.
Quand tu dis ça, tu vois que la pyrite explose de rire. Mais littéralement, un rire, c'est un rire d'enfant, puisque les pyrites ressemblent physiquement à des enfants, mais même côté voix, en fait, ils n'ont pas des voix super graves. Donc, comme une sorte de rire de petite fille, en fait. Et tu vois que même le corot fait une sorte de sourire assez drôle. En revanche, le Camille n'a aucune réaction, n'acquiesce même pas cette référence à son culte.
C'est une Camille. Donc elle fait pas... Ok, donc elle... Ok.
En revanche, tu vois que l'homme qui avait ouais. parlé, lui, il fait plutôt un rictus de désapprobation. Style, je vois bien que tu te fous de notre gueule, et ça me plaît pas. Quoi. Mais il dit, bon, donc je pense qu'on est d'accord.
Avec un geste pas du tout agressif, hyper calme, hyper serein, c'est lui mettre l'épaule, tu sais, comme on fait quand t'as quelqu'un qui est un peu tendu, truc comme ça, tu sais, tu fais le geste
calme-toi.
De ton collaborateur, tout ça.
Okay.
Donc je lui pose hyper, ça, nous sommes parfaitement compris, et je veux absolument qu'il n'y ait aucun problème. Donc je vous souhaite très bonne course, partez demain tranquillement et sereinement, et nous nous retrouverons là où devons nous retrouver, au moment où devons nous retrouver, dans les circonstances qui doivent être, telles que Candrin nous aura guidés. Je vous souhaite une très très bonne soirée, encore merci pour cette chope, que je n'ai absolument pas vue, et profitez bien, essayez quand même de vous reposer un peu si vous devez partir demain pour faire de la route, et encore merci pour ces très très bons conseils.
Ah.
Et je me lève et je pars.
Il te regarde partir.
Lucius sort de cet entretien assez perplexe. Une compétition? Quelqu'un aurait vraiment dépêché plusieurs courriers et le premier arrivé à Dinams gagnerait une récompense? Honnêtement, ça fait pas beaucoup de sens. Mais il faudra quand même investiguer là-dessus. Le lendemain, à sa grande surprise, Lucius est invité par les Thermopsidés à l'oraison funèbre de Thomas, délivrée par nul autre que la Camille prêtresse de Cambrin. Rencontrée la veille.
Tu es intercepté par Mesquian qui descend et qui fait « Messire Lucius, je sais que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais nous avons réussi à trouver un prêtre et nous allons faire une petite oraison funèbre pour Thomas. » C'est maintenant là. Est-ce que vous voudriez nous suivre? Vous ne vous sentez
oui,
pas
sûr.
Obligé, bien sûr, hein, mais
si non,
vous
non,
avez
bien
envie
sûr.
De vous recueillir.
Très bien. On y va.
Donc vous vous dirigez.
Et je récupère Lily aussi. Hein. Elle vient.
Mais Lily, t'es descendue avec toi pour le petit déjeuner.
Ouais, je suis là.
En passant, elle a attrapé
un bout de pain et qu'elle commence à manger son bout de pain parce qu'elle a faim. Et donc, en fait, vous allez dans une espèce de petite salle arrière. Et à ta grande surprise, tu vois dans la salle, donc tu vois les trois autres thermopsydés. Et tu vois la Camille de Candrin qui est là, en fait. Et tu vois qu'il y a des bougies qui ont été allumées. Et donc, tu vois que tout le monde s'assoit et se met sur des bancs. Et tu vois qu'elle commence à faire une sorte de prière. De prière pour l'âme de Thomas. L'âme de Thomas qui était une flamme vivante. Un jeune homme plein de vie et plein d'énergie qui a donné la majorité de la vie pour son pays en tant que soldat et qui, après la cessation de l'armée, a continué à vouer sa vie, à défendre les autres et à aider. Donc en fait, elle fait une très jolie oraison funéraire et c'est une très belle cérémonie. Tu vois que clairement, les thermopsydés sont émotionnellement très très chargés. Tu vois même que le Camille des thermopsydés pleure. Probablement un de ceux qui avait le plus de relations avec Thomas ou qui est peut-être plus émotif. Donc elle fait une cérémonie, mais magnifique, mais très courte. Tu vois, ça va durer une dizaine de minutes. La prêtresse de Candrin fait ce qu'il y a à faire, etc., etc. Et puis une fois qu'elle a fini, elle s'en va. Donc les thermopsydés ont décidé de. Donc tu vois qu'en fait, il y a de la bouffe qui est apportée dans la pièce. Comme s'il faisait une sorte de repas post-funéraire. Mescrem te dit qu'en fait, c'est une tradition qu'il a développée quand ils étaient à l'armée, que même si l'armée n'avait pas forcément beaucoup de bouffe aux endroits où ils étaient, à chaque mort de soldat, ils faisaient tout le temps quelque chose, une sorte de célébration. Et donc là, ils ont la chance, ils sont dans une auberge où il y a de la bouffe. Donc il a fait amener de la bouffe. Donc ça va être en gros votre une sorte de brunch. Parce que vous êtes déjà quand même relativement avancé dans la matinée, donc vous faites une sorte de brunch. Et donc, ben, vous mangez ensemble. Et tu vois que les thermopsydés, peut-être pour la première fois en un mois complet, tu te rends compte qu'ils se détendent un peu. Et chacun a une anecdote sur Thomas, en fait. Une anecdote qui soit très drôle, soit au contraire qui fait pleurer. Je pense que, dépendamment de ton humeur, soit tu préfères... donc, le Camille raconte la première fois que Thomas a couché avec une femme. Et à quel point il était maladroit, il était rouge comme une pivoine, alors que c'était en fait une fille à soldat, donc c'était limite une prostituée qui elle n'avait aucun problème de pudeur, etc. Mais Thomas était vraiment rouge comme une pivoine. Et c'est vrai que ça fait rire, la façon dont il raconte l'histoire, ça fait rire. Mais tu vois, le scène plutôt raconte une histoire où en fait Thomas a dû tuer, ils étaient en campagne, et en fait ils sont tombés sur une troupe de révolte pendant une sorte de mini-guerre civile dans le nord du pays. Et plutôt dans ce qui est aujourd'hui le comté de Bratt. Et en fait il raconte qu'il a dû tuer que Thomas a dû affronter et tuer des enfants en fait. Et que Thomas avait failli quitter l'armée après cet événement qui l'avait traumatisé parce qu'il a tué des gens qui étaient du même âge que son frère et sa sœur. Et malgré ça, il a fait son devoir envers son pays et envers... il a pris sur lui. Donc, en fait, ils font une sorte de mélange... tu vois, il y a tout, en fait. Ce que tu peux avoir dans un enterrement normal quand les gens sont vraiment morts. L'impression que tu en tires de ça, c'est que Thomas avait l'air de... Déjà, il était énormément apprécié, mais ça avait l'air d'un jeune homme bien, quoi. C'est surtout ça, l'impression. Effectivement, le métier de militaire... ils ont beaucoup fait la guerre, ils ont aussi beaucoup gardé la paix, mais ils ont beaucoup fait la guerre et que malgré ça, il avait gardé une éthique, il avait gardé une sorte de code moral malgré son jeune âge par rapport à ça. Qui est quand même relativement en accord avec ce que toi tu avais ressenti. Et donc, il décide de toaster.
Donc, ça, je joue le jeu, normalement, vu qu'il doit quand même, on a un peu discuté avec lui, c'est lui que je m'étais un peu lié, donc moi aussi je raconte une anecdote dessus pour participer à la cérémonie, quoi.
Ouais,
ça sera plus dans le sens de les premiers échanges ouverts avec les thermopsydés et qu'il a réussi, il a bien accueilli, bien, un truc comme ça aussi, mais dans le sens qui est pareil, pour aller dans le sens aussi partager avec eux. Et, voilà.
Donc tu vois qu'ils apprécient aussi que tu participes, et il dit, on va porter un toast, et donc il lève son verre, et il y a un des thermopsydés, il dit attendez. J'ai une idée. Tu vois qu'il sort de son sac une sorte de bouteille. Et dit, vous savez quoi, on va essayer cette bouteille-là. Vous savez qui c'est qui m'a offert cette bouteille? Vous devinerez jamais. Messire Lucius, est-ce que vous pouvez avoir une idée qui m'a offert cette bouteille?
Quintus.
Malheureusement, je connais pas Quintus.
Ah, bon, ben c'est pas lui, donc. je ne sais pas.
C'est un des moines. Vous savez, vous souvenez les moines qu'on avait sur la route?
Ah oui.
Eh bien, un des moines m'a offert cette bouteille en remerciement. Comme j'étais le dernier de la cohorte, il m'a offert cette bouteille. On va goûter, apparemment, c'est eux qui font ça quand ils sont pas en voyage. Et donc, Mescrien dit « Ok ». Donc, tu vois qu'il rassemble tous les verres. Et au moment...
J'en prends pas.
De quoi?
Je n'en prendrai pas.
Je n'en prendrai pas, ok. Et en fait, donc, tu vois qu'il débouche la bouteille. Et à ce moment-là, il y a une espèce de gaz... vert,
oh, purée, qui se dirige, il ouvre ça.
Qui expulse de la pièce, et tu vas me faire un save constitution. Et tu vas en faire un pour Lily aussi.
Purée, ça devait être trop beau. Alors, ça fait 6 pour moi.
C'est pas bon.
Ouf, et je vais nous refaire 5 aussi pour Lily.
Donc,
bah, tous les deux 6 on a fait. Pum, pum.
C'est vraiment pas bon, je te le dis tout de suite.
Ah bah, je m'en doutais. On prend plein de précautions, il faut que l'autre il ouvre sa bouteille de machin.
Donc tu vois que ce nuage vert se répand à une vitesse insensée, comme si en fait la bouteille était sous pression en fait. Se répand à une vitesse insensée dans la pièce et tu commences à suffoquer. Et tu sens même en fait que la peau de ton visage commence à brûler, comme si en fait c'était de l'acide qui était... tu sais, quelque chose d'acide qui touchait ton visage. Et tu t'évanouis.
Lucius et Lily survivent heureusement au gaz empoisonné, mais plusieurs thermopsydés perdent malheureusement la vie. Lucius se réveille 2 jours plus tard, et la troupe maintenant réduite se remet péniblement en route, désespérée et convaincue qu'ils n'arriveraient jamais à temps à Dinam. Mais leur malheur ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, les chevaux de la compagnie montrent des signes de fatigue et de maladie et meurent tous en même temps. La troupe est maintenant à pied, et il lui est impossible d'arriver à Dinam dans le délai imparti. Heureusement, elle croise le chemin d'un marchand accueillant, nommé Surod, disposé à céder ses chevaux contre un service à rendre un jour ou l'autre. Suspicieux, mais aux abois, Lucius n'a pas d'autre choix que d'accepter. Fort de chevaux frais et sous l'effet d'un dopant concocté par Lily, Lucius et ses compagnons accélèrent et le moral remonte. Le dernier jour avant la date butoir des 2 mois, ils arrivent sur la plaine devant les remparts crénelés de la ville de Dinam. Ils ont réussi! Mais alors qu'un sentiment de liesse monte en eux, ils entendent une troupe lancée au galop derrière eux.
Alors que vous êtes sur la route, Lucius entend du bruit de derrière, qui vient de derrière. Malheureusement, il ne peut pas encore voir ce que c'est parce qu'en fait, la route fait une sorte de... Une sorte de bombement.
Si c'est un bruit, je peux quand même entendre le type de bruit.
C'est un bruit de cavalcade. C'est un bruit de chevaux lancés à toute bride avec... Et alors que vous avancez toujours, hein, Lucius voit une sorte d'espèce d'épais nuage de poussière qui se lève. Et même au loin, vous entendez... Bougez-vous ! Bougez-vous ! Donc comment réagissez-vous ?
Est-ce qu'on reconnaît la voix du groupe des gars sympas là ?
Alors, tu reconnais pas particulièrement la voix, mais en fait, quand ils sont assez proches, et que tu vois en fait qu'ils dépassent ce haut de cette mini-colline que vous venez juste de traverser, tu vois qu'effectivement, c'est eux. Ils sont au triple galop, quoi. Et ils ont l'air... Bougez-vous ! Bougez-vous !
Tu penses qu'on peut tenir leur rythme et arriver avant eux, ou c'est trop dangereux et...
Alors, vous pouvez partir au galop, vous aussi, sans aucun problème, et est-ce que vous pouvez essayer de les garder à distance ? Bah, ils sont à cheval, vous êtes à cheval, c'est gérable. Par contre, c'est pas un rythme qui est soutenable, quoi. Vos chevaux vont pas tenir au triple galop. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Tu te dis, soit ils ont quelque chose de...
Soit il y a quelque chose qui
arrive, parce que c'est pas un rythme de croisière, quoi.
D'accord.
Mais là, ils arrivent vers vous, là. Ils sont,
On part au galop comme eux, en avance. Hein. On essaie de maintenir l'avance.
Ok, donc vous partez comme ça, sur les chapeaux
de...
Sabots, sur les chapeaux de sabots. Mais vous voyez que malgré ça, les chevaux commencent à gagner. Et en fait, tu es inquiet sur le fait que en fait, ces chevaux vous gagnent. Et effectivement, tu reconnais que c'est bien ce groupe-là. Et ils ont l'air de vous reconnaître ici. Tu... Mais barrez-vous, bordel ! Barrez-vous ! Mais en fait, le problème, c'est que tout d'un coup, tu vois le soleil se cacher. Et tu te dis, tiens, une éclipse ! Et alors que tu es au galop et que tu lèves la tête quand même, parce qu'il faut aller voir...
Il y a le coranique.
Tu vois le coranique, en fait, qui fait obstruction entre le soleil et vous, en fait. Et quelques secondes à peine, vous voyez que le coranique change de course et commence à piquer en votre direction, puisque vous êtes carrément les uns derrière les autres, quoi. Et au lieu d'arriver sur vous, en fait, fait une sorte de descente, arrive à peu près à une vingtaine de mètres au-dessus de vous, et tu vois cette espèce de tête immense, tu sais, avec des grosses écailles.
Qui fait un souffle.
Ouvre la bouche, et tu vois une espèce de jet de feu, une sorte de cône de feu qui s'abat sur vous, et tu vas me faire un save dextérité, et je te donne l'avantage parce que tu m'as dit que tu étais préparé.
9 plus 7, 16.
Alors donc tu prends un point de dégâts. Donc je vais te décrire la scène. La scène, c'est que c'est une espèce de créature volante immense, au moment où elle est le plus bas par rapport à sa trajectoire et sur vous, ouvre son espèce d'énorme gueule écailleuse avec des yeux rougeoyants, et en fait, c'est l'espèce de longue langue de feu qui s'abat sur vous, et en fait, ça vous couvre tous, en fait. Donc le groupe qui était derrière vous, et vous, et même toi qui étais sur le devant, sauf que toi, tu as eu le réflexe de sauter ton cheval et tu te dis ok bon, et tu fais une sorte de roulade pour arriver à te récupérer. Malheureusement Lily qui est derrière toi, elle a pas la même chance. Toutes les personnes derrière toi ont pas forcément la même chance, et donc au moment où tu te relèves alerte, déjà le Koranig est déjà allé en haut dans le ciel, mais en plus de ça tu vois que vos chevaux sont tout cramés. Il y a cette espèce d'odeur de charny que vous avez déjà senti la dernière fois il y a pas mal de semaines qui te prend à la gorge. Mais là, c'est une odeur fraîche, c'est encore plus ragoûtant. Et tu vois que de votre côté, Lily est au sol. Donc, comment elle est par rapport au point de dégâts qu'elle a pris?
Il lui reste 5 points de vie.
5 points de vie. Donc, elle a l'air quand même relativement amochée. Tu vois que Meskrian et son compagnon sont séchés au sol. Même plus que séchés, ils sont brûlés au sol. Sur l'instant T, tu sais pas s'ils sont vivants ou morts. Et tu vois que dans le groupe de derrière qui arrivait sur vous, eux aussi, pareil, ont fait une sorte de chute. Ils ont l'air d'avoir encaissé mieux le coup parce que les quatre se relèvent. Et d'ailleurs, première chose dont tu te rends compte, ils étaient 5 quand tu les avais rencontrés la première fois. Et là, ils ne sont plus que 4. Donc l'homme de tête, le leader, celui qui t'avait parlé à l'auberge, Julio, et 3 autres femmes. Et tu vois qu'ils se relèvent quand même rapidement. Et qui sont quand même relativement abasourdis par la situation. Et très rapidement, le leader dit « Bon, allez, il faut y aller, il va revenir !» Et tu vois qu'il commence à courir en essayant d'aller se mettre dans... Ah non, il court tout droit. En fait, littéralement, j'ai raté son jet. Donc tu vois qu'ils partent à courir, ils sont sur la voie à travers ça, et ils commencent à courir tout droit, donc si tu bouges pas, ils te dépassent. Mais si tu bouges, ben, dis-moi ce que tu fais.
Je vais m'occuper de Lily pour la récupérer et partir de là, parce que soit il va revenir avec son Koranik, soit il va continuer son truc, donc il faut qu'on y aille nous aussi, quoi. Donc
tu fonces sur Lily et tu la mets sur ton épaule. Alors le bunk plus Lily, ça commence à faire un peu lourd quand même. Et à ce moment-là, tu entends donc le groupe qui vient juste de dépasser qui dit « Merde, il revient !» Et tu te retournes et tu vois qu'en fait le Koranik s'est posé pas loin de vous. Il doit être à peu près à une trentaine de mètres devant vous. Et sans aucun empressement, tu vois que le cavalier du Koranik descend de sa monture et qui sort ses deux armes. Il se tire un peu. Allez, on y va et on va finir maintenant. Et il s'approche de vous avec son Koranik à côté de lui.
Initiative.
Il s'ensuit alors un combat titanesque entre la créature volante, son cavalier le gladiateur, Lucius, Lily et les Myrgos de fer dirigés par Julio. Lily s'approche dangereusement des portes de la mort 3 fois et la majorité de la troupe de Julio est défaite. Le combat se finit en duel entre Lucius et le gladiateur et ce dernier l'emporte, laissant Lucius pour mort. Mais Lucius reprend conscience quelques minutes plus tard pour se rendre compte que son adversaire a emporté le bunk. Sa mission a échoué. Mais tout d'un coup, il a une idée.
Quelqu'un te secoue. Tu te réveilles. C'est la scène dont tu ne connais toujours pas le prénom, mais qui s'appelle Saria, en fait. Donc tu vois que c'est Saria qui, en fait, te secoue pour te réveiller et qui dit « Réveillez-vous, réveillez-vous !» Bon, il faut se bouger, là.
Tout à fait d'accord avec toi. Oui, Lily. Je cours vers Lily. Si je suis en minimum, je rampe ce qu'il faut pour aller la trouver.
Tu rampes ou tu te traînes jusqu'à Lily et tu vois en fait qu'elle est entièrement brûlée. Son visage est partiellement défiguré et tout un côté de sa peau est entièrement brûlé. Mais elle n'est pas morte. Elle a survécu. Comme quoi, le clan Knuckle, ça a la peau dure. Saria est la seule qui est debout et elle tient à peine debout.
Est-ce qu'on peut faire des repos courts pour utiliser nos dés de vie pour gagner des points de vie?
Alors, un repos court, c'est une heure, donc c'est quand même beaucoup de temps.
Une heure, c'est beaucoup de temps. On ne sait même pas combien de temps on est resté inconscient.
Bah, tu peux demander à Saria, par exemple.
Saria, ça fait combien de temps qu'on est inconscient?
Tu vois qu'elle te dit que quand elle s'est réveillée, le gladiateur s'envolait à peine. Et ça doit faire 5 minutes. Et que tu penses qu'il est parti avec le bunk.
Donc je peux utiliser en 5 minutes. Ouais, mais t'as dit que la dernière fois, le coronique, il volait super vite. Bon, je peux quand même tenter de le faire revenir, mais ça marche pas. Et après, j'ai toujours la rune qui permet, pendant 24 heures, de savoir où il est, quoi.
Tout à fait.
Je vais commencer par appeler la rune qui permet de le faire revenir.
Tu vas me faire un test d'arcana?
Vas-y, vas-y, arcana. Allez, on y croit. On y croit. 8.
8. Tu te concentres. Ça te prend quand même un peu de temps. Mais tu te souviens exactement comment ça marche. Et tu ressens une énergie craquelante autour de tes mains. Et tout d'un coup, pouf, le bunk apparaît. Et t'es tellement surpris, en fait, que tu sais que le bunk est très lourd. Tu te coules, en fait, à la renverse. Parce que le bunk... Et tu as le bunk dans la main.
Ok. Alors, Saria... Il y a des chevaux autour de nous? Il y a des choses comme ça?
Tu vois que Saria te dit « Ni votre ami, ni les miens sont dans un état d'être transportés. Hein. Là, il faut rester. Il n'y a qu'une seule solution, c'est rester. »
Ok.
Et tu vois qu'elle, quand même, elle probablement conscience professionnelle, elle jette un coup d'œil au bunk. Est-ce qu'il y a votre message dedans?
J'espère.
Donc ça veut dire que si ça se trouve, vous pouvez gagner le concours?
Je cherche pas à gagner un concours. Je fais juste la mission pour laquelle on m'a mandaté.
Il reste une journée pour arriver jusqu'à Dinam et la date butoir, c'est demain. Qu'est-ce que vous attendez?
On va mettre vos amis en sécurité. Et effectivement, on va partir parce qu'au moins, ils viendront pas vous embêter.
Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et je m'occupe de votre ami aussi. Je vous jure sur mon honneur qu'il ne lui arrivera rien. J'ai juste besoin de me reposer un peu.
Finalement, malgré ses blessures et la fatigue, Lucius reprend seul la route, laissant le sort de ses compagnons dans les mains de Saria. Le lendemain, Lucius pénètre dans la ville de Dinam et va directement au château pour remettre le message. Après quelques vérifications d'usage, il est enfin reçu par le comte de Dinam.
Quelques heures plus tard, une femme vient te chercher et te fait entrer dans le bureau immense, mais chichement décoré, ce qui fait quand même un énorme contraste avec le reste du lieu. 5 gardes sont présents, armure et lance, des guerriers aguerris dont le regard à Lucius lui fait comprendre qu'il y a intérêt à se tenir correctement. Mais le plus important se trouve au centre de la pièce. Assis à un bureau débordant de parchemins, un homme lève la tête. Il n'est clairement pas dans sa prime jeunesse, ses cheveux en catogan ayant pris une teinte argentée, mais ses yeux bruns sont vifs et perçants. Il sourit à Lucius. Venez donc, messager. Apparemment, vous avez fait longue route. Vous avez quelque chose pour moi, là? Amenez-vous.
Enchanté, messire le comte, avec une petite révérence. Oui, quelque chose de très précieux pour vous, qui a coûté la vie à de nombreuses personnes.
Tu veux qu'il acquiesce, avec un geste de tête?
Je lui pose délicatement sur le bunk.
Donc tu vois qu'il fait un peu de place entre les piles de parchemin.
Ben, je fais ce qu'il faut pour que le bunk s'ouvre.
À la prononciation du mot magique, le bunk s'ouvre dans un claque métallique. Tout le monde se penche pour voir ce qu'il y a dedans, y compris les gardes soudainement curieux. La boîte métallique si sécurisée contient un étui en parchemin en ivoire, finement ciselé, mais sans inscription ou signification spécifique. Le comte s'en saisit et en retire le bouchon, faisant glisser le parchemin qu'il contient dans sa main. Alors que le comte déroule le parchemin, Lucius est soudainement pris d'un malaise, lui oppressant la poitrine et le cœur. Il manque d'air et perd instantanément connaissance. Alors qu'il reprend conscience, plusieurs vives douleurs l'assaillent. Il est plaqué au sol par 2 gardes, le genou de l'un appuyant sur sa colonne vertébrale et déclenchant des décharges de douleur. Ses bras sont attachés dans son dos et ses pieds sont liés. Les gardes crient à tout va, et alors que tu relèves la tête, il y a un grand choc. Ta dague personnelle que tu cachais sous tes habits, est enfoncée jusqu'à la garde dans la poitrine du comte, qui est avachi sur son siège, baignant dans son propre sang. Lucius vient d'assassiner le comte de Dinam.
Et c'est ainsi que se termine l'aventure de Lucius, dans le palace, la dague dans le cœur du comte de Dinam. Cet assassinat d'une des figures politiques les plus importantes du pays aura des répercussions majeures dans le pays. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, j'espère que ce résumé vous a plu. Nous publierons dans 2 semaines le premier épisode de la mini-saison où vous retrouverez Lucius exactement au moment où cette histoire s'est achevée. Que va-t-il lui arriver? On a hâte de vous raconter la suite. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site web undurolist.net et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Undurolist a pour mission de montrer à tout le monde que l'on peut faire du jeu de rôle en duo avec un MJ et un PJ, quel que soit le système et le setting, sans aucune difficulté. Alors n'hésitez pas à vous lancer à jouer en duo de votre côté. Allez, à plus !